Bonjour à toutes, salut à tous, enchanté de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de la moto tous les dimanches à partir de 11h sur le 106,6 de Radio Campus Lille ou www.campuslille.com. Les restrictions de déplacement font que nous sommes dans l'impossibilité de retrouver notre ambassadrice de la moto, Patricia. Par conséquent, nous vous proposons aujourd'hui quelques séquences que nous avons piochées dans nos émissions précédentes. Est-il possible de rouler à l'éthanol en moto? Un dossier proposé par Christophe Tillemans. L'histoire d'un vêtement que les bikers se sont appropriés après la Seconde Guerre mondiale, le Perfecto. Et pour terminer, l'histoire tourmentée d'une marque de moto française, Vauxhall. Voilà, nous vous souhaitons une bonne écoute et on se retrouve juste après notre première pause musicale. A tout de suite. Peut-on rouler donc au bioéthanol en moto? Bah oui, bien sûr, c'est possible, Christophe.
Alors, bah oui, donc je disais en entrée de sujet que la région aide aujourd'hui les automobilistes à rouler au bioéthanol. Mais qu'en est-il des motos? Ça fait déjà quelques temps que je me posais la question. Je m'étais déjà posé la question avec le GPL. Alors ça tombe bien parce que j'ai invité Cédric. Cédric, bonjour.
Bonjour.
Donc Cédric de Motocab, célèbre donc agence de mototaxi parisienne. Donc, qui roule en Goldwyn, hein, c'est ça?
Tout à fait, on roule en Goldwyn 1800, ouais.
Depuis combien de temps?
Ah ben, Motocab existe depuis les années 2000.
Oui.
Et effectivement, le standard du métier, c'est vraiment la Goldwing 1800 pour le confort. Hein.
D'accord, bah, on les connaît bien, on les croise quand on descend sur Paris. Et alors, les chauffeurs qui pilotent ces motos sont passés au bioéthanol depuis toujours, quasiment.
Ah ben, depuis toujours, hein, depuis que le bioéthanol est lancé, on est passé sur ce carburant-là pour nos motos. Et tout se passe très bien. Voilà, on roule au bioéthanol.
Avec succès. Alors, quel est l'intérêt ?
Alors, nous, il y a un double intérêt. Il y a quand même un intérêt écologique pour ce carburant. Et il y a aussi un intérêt, évidemment, économique, parce qu'il est clairement quasiment deux fois moins cher que l'essence sans plomb.
D'accord. Les chauffeurs, combien un mototaxi pratique-t-il à l'année de kilomètres ?
Un chauffeur de mototaxi par mois fait entre 5 et 6 000 kilomètres.
D'accord.
Et effectivement, alors avec nos boîtiers bioéthanol, ils peuvent mettre aussi du sans-plomb s'ils sont amenés à ne plus avoir de pompe bioéthanol à côté, mais on va dire qu'ils roulent à plus de 90% au bioéthanol.
Oui, alors tu disais les motos sont les Goldwing, effectivement, ces kits ils sont adaptables sur un peu toutes les motos. Bon, vous, c'est la Goldwing, c'est évidemment bien connu pour ça, mais précédemment vous équipiez des pan-européennes, je crois.
Tout à fait, on a eu des pannes européennes avant, on les avait aussi équipées au bioéthanol. Ouais. Et en fait, c'est juste un kit qui diffère hein, entre les deux types de motos. Donc ça peut être ces deux motos-là ou d'autres motos, hein. ça ne pose aucun problème. Hein.
D'accord, bah justement, après on accueillera Hector donc, qui installe lui et qui nous dira peut-être qu'il y a des motos qui sont plus aisées à installer et à équiper que certaines autres. Et donc ce changement d'énergie se fait de quelle façon ? Donc, c'est du matériel français ou...
Alors nous c'est du matériel français et c'est effectivement un kit flex fuel qu'on pose sur les motos et qui permet ensuite de mettre n'importe quel type de carburant ou sans plomb ou bioéthanol.
D'accord, donc ce changement d'énergie se fait... Enfin, le boîtier par lui-même, il est étanche parce qu'il faut le placer déjà sur la moto, c'est pas toujours évident. Où est-ce qu'il est placé, par exemple, sur la Gold ?
Sur la Goldwing, il est placé à côté des injecteurs, au niveau de la selle, quoi, grosso modo.
Oui.
C'est un tout petit boîtier, hein, il est grand comme la paume de la main, hein, donc ça se place sans problème. Ouais.
D'accord. Et alors, ce boîtier, il est récupéré pour la moto suivante ou il est revendu avec la moto quand vous renouvelez le parc ?
En général, il est vendu avec la moto parce que la personne suivante est très contente d'avoir un kit bioéthanol pour pouvoir continuer à rouler avec. Donc, ouais, en général, on le laisse sur le véhicule.
Et alors, les anciennes, enfin, je ne sais pas si vos clients continuent, enfin, les acheteurs, pardon, restent en contact avec vous ou ils vous rachètent après une autre moto plus récente, sans doute.
Alors, moi, ça m'est déjà arrivé, effectivement. Hein. Nous, on vend les Goldwing en général entre 150 000 et 200 000 kilomètres. Et j'ai déjà effectivement des personnes qui m'ont rappelé pour savoir si on vendait d'autres véhicules. Et c'était des motos qui avaient quasiment atteint les 300 000 km.
D'accord.
Donc on n'a aucun problème de fiabilité avec ce kit-là. C'est sans problème. Et vu le parc de motos, l'utilisation et le nombre d'années depuis lesquelles on utilise les kits, c'est vraiment fiable.
Il n'y a pas une surconsommation quand même ?
Alors, il faut compter une surconsommation de l'ordre de 20%,
oui.
Mais qui est évidemment largement compensée par rapport au prix du bioéthanol. Si vous êtes à 1,50€ sur le sans-plomb, vous trouvez de l'essence à 70 ou 80 centimes. Donc, même s'il y a une petite surconsommation, ça ne pose aucun problème.
D'accord. Alors, je parlais tout à l'heure des aides régionales ici en Hauts-de-France pour les automobiles. La question qui est posée, c'est l'homologation. Donc, le kit est homologué, mais les fabricants, eux, quand on leur pose la question, en gros, ils ne donnent pas d'accord pour l'équipement. Donc, c'est un peu au risque et péril de l'installateur, du client.
C'est un petit peu ça. Ils ne donnent pas d'accord, ils ne donnent pas de désaccord. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne modifie en rien la carte puissance.
D'accord.
Ça ne modifie en rien la puissance, le moteur, etc. Donc, ça ne pose pas de problème. On n'a pas de faire de modification structurelle de la moto. C'est juste un rajout. Mais en tout cas, par rapport à la fiabilité, parce que de temps en temps, on entend des gens qui ont un petit peu peur d'équiper leur moto avec du bioéthanol en disant « Est-ce que, en gros, ben, mon véhicule à 200 000 km fonctionnera encore ?» Ben, moi, la réponse est oui. Hein, ça pose vraiment aucun souci.
D'accord. Oui, c'est pas le moteur en tant que tel, mais souvent, on parle des intérieurs de réservoir, des durites, de côté un peu corrosif, parce qu'il y a un peu d'eau quand même dans le carburant. Il y a un...
Oui, alors, après, nous, on n'a pas démonté ce genre de choses. Ce qu'on fait, c'est par rapport au kilométrage qu'on fait et au nombre de motos qui sont sur la route. On n'a jamais eu ce genre de soucis par rapport au montage du kit.
D'accord. Bon, donc, bah, ça tombe bien. On posera les mêmes questions à Hector, lui qui équipe, et sur d'autres modèles. Le Bergmann, par exemple, fait partie aussi de votre flotte ou pas? Non, plus maintenant.
Alors, on a eu le Bergmann à l'époque, mais effectivement, à l'heure actuelle, enfin, depuis quand même de nombreuses années, on ne roule qu'en Goldwing 1800.
D'accord. Bon. Parce qu'Hector nous parlera du Bergmann qu'il équipe encore, donc, avec le kit. Bon, bah, Cédric... pardon? Oui?
Maintenant, je disais, on a eu le Bergmann, hein, mais c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, on est 100% Goldwing.
Très bien. Merci Cédric pour toutes ces précisions.
Avec grand plaisir.
Et on enchaîne après avec Hector, donc installateur, lui, de kit bioéthanol. Merci, à bientôt.
Bonne journée.
Au revoir.
Sujet intéressant aujourd'hui pour faire des économies, parce qu'il faut avouer quand même que le budget carburant, ça pèse
dans la vie d'un motard.
Dans la vie d'un motard, oui, dans le budget, chez
oui,
Pod.
Oui, puis on n'a pas l'opposition ici, hein.
C'est-à-dire
les gens qui sont
de la moto électrique. Hein. C'est pas tout à fait pareil, Christophe. C'est pas tout à fait pareil.
Bon, allez. Non, c'était une blague. Hein. Alors, effectivement, on continue sur le sujet donc de l'adaptation du kit bioéthanol sur les motos. Alors, on a entendu donc l'usager, Cédric de Motocap, société mototaxi, qui a éprouvé donc les installations sur ses Goldwing, qui roule toujours d'ailleurs depuis 10 ans avec. Et donc là, on a Hector. Bonjour Hector.
Bonjour.
Hector de LLS Moto 91, donc qui installe les boîtiers. Et donc, c'était intéressant de faire parler effectivement l'installateur pour nous donner son avis technique sur le matériel et puis les équipements. Alors, Hector, tu installes depuis combien de temps les kits sur les motos là ? C'est votre activité principale ?
Entre deux, oui, on va dire ça.
Oui.
Sinon, ça fait maintenant 7 ans que j'installe les boîtiers de chez Biomotors.
D'accord. Donc, boîtier français.
Oui. Hein,
tout à l'heure, Cédric nous parlait de FlexFuel. Donc, en l'occurrence, là, Biomotors est bien connu, qui ont été les premiers d'ailleurs à faire homologuer leur kit pour les voitures donc il y a 2 ans. Et donc, quel type de moto vous proposez donc aujourd'hui en équipement ?
Bon, aujourd'hui, on équipe un peu beaucoup. Moi, c'est surtout les Goldwyn.
Oui.
Après, je fais aussi du particulier, du K1600. J'en ai déjà posé sur du ST1300. Je veux dire qu'il n'y a pas vraiment de...
Il n'y a pas de contre-indication. Plutôt les injections. Ça devient compliqué à gérer sur les carbus. Encore que je crois que c'est possible, mais c'est certain.
Non, sur les carbus, c'est pas possible.
C'est pas possible. Donc, voilà, au moins une réponse claire. Merci. Et donc, au niveau fiabilité, j'évoquais avec Cédric les questions qui sont posées par rapport à l'aspect corrosif du carburant au niveau des réservoirs, des durites. C'est un problème qui est résolu ou qui n'a pas lieu ?
Qui n'a pas lieu. Moi, ça va faire, je vous dis, 7 ans, j'ai jamais eu un souci sur une moto.
D'accord.
Après, en voiture, je ne sais pas exactement comment ça se passe, parce que nous, beaucoup de réservoirs sont en plastique aussi.
Oui.
Donc, niveau corrosion...
D'accord. Et sur la fiabilité, tu nous disais justement que ça posait pas de problème. On évoquait avec Cédric les aspects d'homologation. Donc, les boîtiers sont homologués, mais malheureusement, les fabricants, eux, ils se prononcent pas, visiblement. C'est ça ?
Sur la moto, oui.
Oui, d'accord. Donc ça reste au risque et péril. Sur l'aspect réglementaire, ça pose pas de problème. Les véhicules restent assurés. C'est un changement qu'il faut signaler à son assureur ?
Normalement, oui.
Voilà, d'accord.
Mais donc après, niveau sécurité, c'est strictement pareil. Hein.
D'accord.
Je veux dire, on met pas du gaz, quoi.
Oui, les clients roulent à 100% E85 ?
Oui, 100%.
D'accord, il n'y a pas lieu de mélanger de temps en temps un carburant. Encore que les kits Biomotors se gèrent au niveau de l'injection en fonction du carburant intégré.
Oui, tout à fait, oui.
D'accord. Et les kilométrages réalisés, c'est de quel ordre ? Des motos à l'entretien ?
J'ai des véhicules qui ont plus de 300 000 km sur des Goldwyn.
D'accord.
Moi, je voudrais poser une question. Au niveau technique, ça agit sur quoi, ce boîtier ?
Ça agit sur la durée d'ouverture de l'injecteur, en fait.
D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on peut mettre sur les machines à carburant.
On peut pas mettre sur les machines à carburant, tout à fait.
Voilà. Donc, effectivement, la consommation, on a une injection plus... un débit probablement plus important.
C'est pour ça qu'il y a une petite surconsommation.
De 20% à peu près.
Bon. Et surtout, donc, une pollution moindre. Alors après, je connais pas tous les polluants de l'un et de l'autre, des carburants, mais enfin, en tout cas, ils sont affichés pour être plus propres, voilà, que les carburants traditionnels.
Et sinon, une question, combien ça coûte le kit et l'installation du kit ?
Sur une Goldwyn, on facture ça aux alentours des 700 euros.
D'accord.
Et on peut mettre ça sur... Oui, oui.
Et après, il y a à peu près 2h30 de pause.
D'accord. Et on peut mettre ça sur n'importe quelle moto, même une sportive, éventuellement ?
Oui, bien sûr, oui. Bien sûr.
Ouais. Enfin, il faut trouver l'endroit où le poser.
Oui, c'est ça.
Le poser.
Parce que ça peut être petit. Il y a des motos, effectivement, qui ont un emport relativement limité. Et donc, par rapport au tarif et à l'amortissement, là, j'avais cherché donc pour préparer le sujet. Et je suppose que c'était un chauffeur de moto-taxi qui parlait de 4 000 euros à l'année. Bon, apparemment, c'était un gros rouleur. Hein, il devait approcher les 100 000 par an. Et ça lui payait, en fait, l'assurance moto-taxi pour la pratique de son activité professionnelle. Donc, c'est pour donner... Bon, alors, ce sont des rouleurs exceptionnels. Hein, mais en général... Et les véhicules qui seront vendus, déjà à partir de 20 000, ça commence à devenir très intéressant.
Alors, on parle d'installer le boîtier sur les sportifs, mais est-ce qu'il n'y a pas une perte de puissance quand même, avec le carburant ?
Très très légère. Après, il faut vraiment vraiment, je veux dire, exploiter la machine pour se rendre compte.
Oui.
Ah, sur le Dakar, là, il y a deux motos qui tournent, donc alternatives. Mais je sais qu'ils ont dû faire venir leur propre carburant, parce qu'évidemment, la logistique sur place ne leur permet pas de trouver.
Il y a pas de betterave.
Non, mais on sait qu'au Brésil, ils roulent tous au bioéthanol. Hein, alors, bon, le Dakar, effectivement, c'est la canne à sucre, hein, plutôt dans ce secteur-là. Voilà. Bon, bah, Hector, merci. Et
de rien.
Bonne route.
Merci à vous.
Au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Daniel, bonjour.
Bonjour Lamiche.
Alors là, on te présente comme la voix de la Custom Culture.
Eh oui,
tu es le backers de notre métropole lilloise.
Oh, j'espère que ça dépasse un petit peu les frontières, puisque je suis présent beaucoup en Angleterre, partout en France, partout où se passe quelque chose dans le monde de la custom culture.
Très bien. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet, c'est les vêtements emblématiques du biker.
Oui, tout à fait, parce que le biker, bien sûr, est identifié par sa moto, ça c'est clair, et la manière dont il travaille, mais surtout, depuis, je dirais, la nuit des temps, ce qui nous a motivés aussi, c'est l'appropriation de certaines images véhiculées par des vêtements emblématiques, ce qu'on appelle vulgairement le perfecto, que tout le monde connaît. D'ailleurs, il y en a un en face de nous, là, sur le dossier. Et surtout, on imagine qu'il y a celui-là. Mais non, en réalité, le Perfecto, pour la culture de tout le monde, c'était par Irwin Schott suite à la création de son blouson parce qu'il fumait des cigares cubains, le Perfecto. Donc, en 1936, si je ne m'abuse, quand il a commencé à travailler pour les pilotes, les jeunes pilotes qui allaient intervenir sur le front en 1944, il a sorti un vêtement spécifique qui était le shot, donc le Perfecto, parce que Irwin fumait des cigares de Cuba, le Perfecto. Donc ça, c'est l'origine du blouson. Mais avant ça, nous, Européens, on était précurseurs, parce qu'en 1892, les frères Lewis avaient sorti les premiers blousons qui ont servi aux jeunes pilotes qui sont intervenus dans la guerre, donc en 1914, puisque à l'origine, le père Lewis avait sorti des blousons spécifiques pour nos pilotes sur leur SPAD et autres CE5 et compagnie qui sont intervenus donc, sur toutes les batailles du nord de la France en particulier. Alors, ça, c'est véritablement ce qui est, je dirais, l'ADN du biker, parce que c'est identifié, identifiable, et ça, à travers le monde. C'est une des rares, c'est un des rares signes, mais presque universel. C'est-à-dire que quel que soit le monde, quelle que soit la langue, tout le monde sait, on t'identifie à ça. Alors, tous ces vêtements d'après-guerre ont été rattrapés par les gens de la mode, puisque les grands couturiers, que ce soit McQueen, chez Dior et compagnie, ont utilisé ces vêtements pour les mettre à la sauce couture. Et maintenant, ça fait partie véritablement d'un produit emblématique qu'on se doit d'avoir dans sa garde-robe.
Et quelle est la particularité de ce blouson ?
Alors, il y a plein. D'abord, à l'origine, il faut quand même savoir que dans les avions de combat, puisque à l'origine, ce sont quand même, que ce soit Lewis ou Schott, c'était quand même des vêtements destinés aux jeunes combattants, enfin, surtout aux pilotes, en 14 et en 44. Et Lewis voulait quelque chose de chaud, de extrêmement résistant et confortable, entre guillemets, autant que ça puisse l'être en 1914. Schott avait à peu près la même chose, mais un peu plus tard. Schott est intervenu non pas dans la guerre 14-18, mais à partir de 1944, quand les Américains ont commencé à débarquer, je dirais, en Europe. Alors la grande particularité, c'est que Lewis travaille sur du cuir, et avec, encore une fois, une qualité, mais extrême, puisque c'était des blousons quasiment garantis à vie. Donc ça, c'est véritablement le top du top. Schott avait une autre dimension, une autre optique, c'est que lui voulait que tous les pilotes puissent être repérés facilement en mer avec des couleurs distinctives. C'est pour ça qu'on a vu les fly jackets avec l'intérieur orange fluo. Ce qui voulait dire tout au moins, c'est qu'en cas de naufrage ou en cas d'amérissage, à 10 ou 15 km, le pilote était repéré. Et ça a été aussi utilisé sur tous les bateaux, parce que Schott voulait que tous les membres engagés puissent être terriblement visibles. Mais ça a été beaucoup plus loin, parce que quand on regarde un tout petit peu l'histoire, on s'est rendu compte aussi que la chasse causait beaucoup de problèmes. Et Schott a sorti, dans les années 50, un blouson assez étonnant, c'est-à-dire devant un blouson normal, et dans le dos, il y avait une teinte très forte, orange ou blanche, de manière
à repérer les chasseurs.
Voilà, qu'ils évitent de se tirer dessus. Oui. Quoique des fois, ça peut être bien. Mais là, pour le coup, c'était quand même une invention. Et ça existe toujours. Ça existe toujours. D'ailleurs, quand on se balade dans les champs, pour les gens comme moi qui courent aussi un tout petit peu, beaucoup maintenant de chasseurs ont des espèces de trucs rouges fluo, encore une fois, pour qu'on les repère. Ou peut-être que pour les lapins et autres volatiles, puissent les identifier de loin.
Donc les bikers vont s'approprier ce vêtement, en fait, après la guerre 40-45, c'est ça ?
Ouais, tout à fait. Alors, au lendemain de la guerre, les pilotes de la RAF ont utilisé donc les blousons et se sont quelque part réunis et ont continué leur mode de vie, non plus dans des avions de chasse, parce que la guerre était finie heureusement, mais se sont dirigés naturellement sur la moto. Et que ce soit nos amis anglais, que nos amis américains. Donc on a vu émerger de plus en plus d'anciens militaires, s'approprier ce vêtement qui était quelque part leur seconde peau. On les a vus donc en Angleterre, tout ce qui était Triumph, Norton, Triton et compagnie. Et aux États-Unis, sur les machines américaines, que ce soit Harley, Indian, Crocker, Excelsior et compagnie.
Il y a le cinéma aussi qui a fait beaucoup pour ce type de vêtements.
Oui, effectivement. Donc là, tu parles de Brando, par exemple, pour le Brando. Mais Coburn, par exemple, de vêtements. Bien que Brando ne roulait pas sur une harnais, mais sur une moto anglaise, une BSA. Hein. Donc, ces gens-là, effectivement, ont été, les porte-étendards. James Dean, par exemple, dans La Fureur de Vivre, a un perfecto. Alors que Brandon, ce n'est pas un perf, mais c'est un Lewis Leather. Donc, ces gens-là aussi ont mis en exergue ce vêtement, encore une fois, emblématique, parce que ces grandes figures du cinéma, à l'époque, La Chevauchée Sauvage, Black Leather, etc., il y a eu plein de films, White One, par exemple. Non, mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est que le cinéma aussi a été aussi un amplificateur, parce qu'il a vulgarisé ce vêtement, encore une fois, qui était réservé à un univers très particulier, encore une fois, de combattants. Et aux yeux du monde entier, on a vu les grandes stars américaines, grandes stars internationales, porter ce vêtement en étendard.
Très bien, je te propose de faire une pause musicale et de se retrouver ensuite.
Avec plaisir.
Voilà, toujours avec Daniel Torel, on parle de ces vêtements emblématiques du Bikers, mais ce vêtement a été aussi approprié par les musiciens.
Alors, ça a été effectivement tous les musiciens un peu borderline, un peu rebelles. Et à l'époque, les deux figures emblématiques, alors je vais prendre des opposés géographiques, c'était Elvis et Johnny, qui étaient aussi les grands porte-étendards du Perfecto, et qui ont aussi... quelque part, à poser un petit peu leur image de blouson noir. De blouson noir, comme dirait notre
ami. C'est là que ça vient, le blouson noir, là, c'est du Perfect.
Et absolument, le Perfecto, c'était, encore une fois, je dirais, c'était l'étendard des blousons noirs. Ce qu'il y avait à l'époque, quand les gens fréquentaient le golf Drouot, c'était des gens qui venaient renverser un petit peu le bal du samedi ou du dimanche après-midi.
Qui faisaient peur.
Et qui faisaient peur parce que, encore une fois, qu'est-ce que c'est que ces gens avec leur jean, avec l'ourlet, et puis ce blouson en cuir noir qui était le Perfecto. Donc, géographiquement parlant, on est comment dire, Elvis et Johnny ont porté, je dirais, de manière beaucoup plus... Enfin, ont vulgarisé ce vêtement qui était déjà connu par les gens qui fréquentaient le cinéma, qui avaient une certaine culture. Mais les hippies s'en sont aussi emparés. Il y a aussi le mouvement punk qui s'est en emparé aussi. Des gens comme Kurt Cobain, par exemple, qui avait toujours un perf. Mais, ce symbole... Il faut quand même comprendre que... Ce symbole un petit peu de rebelle, c'est aussi une forme de liberté. Liberté par rapport au code de la société actuelle. Encore une fois, une société un petit peu contrainte, après-guerre, besogneuse, avec beaucoup de difficultés quand même. Et que globalement, ce qui se passait pour le jeune, c'était pas, sans jeu de mots, rock'n'roll.
Oui, alors il y a le rock'n'roll qui arrivait, et puis en Europe aussi. Et bientôt, on allait avoir 1969-70, hein, qui allait libérer la jeunesse.
Voilà, et encore une fois, donc dans les années 68, 70 et après, le perf était devenu encore une fois, mais alors non pas pour les bikers, etc., mais était devenu le vêtement de la rebellitude, si on peut dire ça comme ça. Et on a vu des gens comme par exemple des Nirvana, enfin Kurt Cobain, par exemple, avoir son perf. Ziggy avait son père, enfin énormément, enfin quand on regarde Arnold Schwarzenegger, pardon, j'espère ne pas avoir écorché son nom, était aussi porteur dans Terminator de son Perfecto. Mad Max,
ah oui,
tous les Mad Max, ce sont des perfs. Donc un peu à la fois avec l'histoire du temps, ce vêtement qui était encore une fois un vêtement de guerre à l'origine. Est devenu un vêtement très, très hype, très tendance, puisque toutes les générations, que ce soit musicien, que ce soit acteur, que ce soit gens de la mode, les gens de la télé, je me souviens aussi d'une émission, un journal télévisé, je dirais un petit peu mythique pour les plus anciens, Mourouzi, qui venait aussi de temps en temps présenter son journal TF1.
Je crois qu'on a vu Coluche aussi avec un Perfecto.
Ah ben, hein? Coluche, son Perfecto rose.
Oui.
Non mais voilà.
Oui, parlons des couleurs, tiens. Forcément, il était toujours noir, mais non, à part celui de Coluche.
Oui, effectivement, c'est bien que tu introduises le sujet de la couleur. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que si on repart des blousons noirs, bon, bien évidemment, ils étaient noirs. Mais quand on regarde un petit peu l'évolution, surtout à partir des années 80, avec l'avènement des gens comme Coluche, qui étaient quand même un petit peu... un petit peu gratte-cul, on va dire ça comme ça, qui se sont affichés avec des perfs. Donc, encore une fois, le vêtement le plus rebelle qui soit, mais encore plus rebelle que rebelle, parce que, symbole de la virilité des combattants, etc., lui mettait un Perfecto rose. Donc, effectivement...
Là, on est en décalage.
Complètement, complètement. Mais c'est bien, c'est cette liberté, encore une fois, de... La custom culture, c'est quoi ? C'est de pouvoir... associer ou transformer sa moto à son image, mais aussi ses vêtements. Là, maintenant, depuis les années 2000, on a découvert la customisation des vêtements. Mais il faut arrêter, ça fait la nuit des temps qu'on fait ça. Et effectivement, quelque part, Coluche et un certain nombre de gens du showbiz se sont appropriés ces vêtements, enfin surtout ceux qui étaient encore, un tout petit peu en dehors des lignes du pouvoir de l'époque, se sont appropriés des vêtements rebelles avec des codes de couleurs mais complètement disruptifs. Donc on a vu du rouge, on a vu du rose, on a vu du bleu ciel, on a vu des paillettes, enfin on a vu de tout. Et c'est ce qui prouve un produit bien né avec une véritable histoire ne peut pas mourir.
Il se modifie, il change, mais il ne meurt pas.
Voilà, c'est ça, il garde ses gènes, mais les jeunes générations les adoptent en fonction de leur mode de vie, de leur sensibilité et de leur image, de l'image qu'ils veulent renvoyer. Mais dans tous les cas, c'est aussi un gros pied de nez, un petit peu à la culture établie, avec les dogmes qui sont verticales et qui voudraient que... Voilà, c'est ce côté un peu libertaire, quelque part, non conformiste. Alors... Le problème, c'est que les success stories, effectivement, sont copiées. Il y a une célèbre boisson américaine, qui était importée par le Nodiai aussi à l'époque, qui a été copiée par des Bretons, par des Corses, par des Alsaciens, etc. etc., etc. Alors, effectivement, oui, il y a énormément de copies de très très mauvaise qualité. C'est vrai, parce que je me souviens d'un proverbe africain qui dit qu'un lion qui imite un lion n'est qu'un singe. Et... Effectivement, il y a des copies, mais de très mauvaise qualité, très mauvaise coupe. Enfin, tout est tout faux. Et le faux ne fera jamais du vrai. Donc, ça, il n'y a pas
de... À quoi on reconnaît un vrai
Alors, un vrai, en général,
un vrai perfect.
C'est sa coupe, la qualité des peaux utilisées, la manière dont les cuirs ont été tannés, puisque à l'origine, c'était du cheval au poulain. Après, on a eu de la vachette, on a eu de la chèvre, à certains moments, il y a eu du kangourou. Donc on voit la coupe, la qualité des cuirs utilisés, les fermetures éclairs, les pressions, et en plus, quelque part, un perf entretenu, c'est pour toute la vie. Celui-là, là, le mien, qui est un Américain, fait à la main entièrement, donc à l'intérieur, ce n'est pas une copie. Celui-là, je l'ai depuis 1975, quand j'étais aux États-Unis. Tu peux regarder, il est quasiment à l'état neuf. Et pourtant, des milliers de kilomètres, ou millions maintenant, il en a vu. Il en a vu de toutes les sortes, des consents, des trucs sous la flotte, dans la boue, des fois des bastons, n'ayons pas peur des mots. Il a toujours résisté. Donc, la qualité, on la voit, parce que ça fait un peu plus de 54 ans, quand même, que je l'ai sur le dos, et tu l'as devant toi. Et tu peux regarder l'intérieur, il est daté et tout. Donc, cette qualité-là, elle ne ment pas. C'est comme tous les bons produits, comme les bons vins, comme les vrais produits, bien entretenus ne meurent pas. Et c'est quelque part une assurance vie. C'est-à-dire
l'assurance vie. Pas quand tu le mets, tu te sens en sécurité.
Ouais, tout
quand
à fait.
Quand tu le portes.
Voilà, on se sent bien.
Très bien. On va, pour terminer sur ce vêtement emblématique, actuellement, combien ça coûte? Combien on doit mettre sur la table pour avoir un...
Alors...
Imperfect.
Alors, tu connais ma sensibilité sur le juste prix des choses. Chez Perfecto, ou que ce soit Schott, pardon, ou que ce soit Louis, ou des choses comme ça, enfin, surtout ces deux grands-là, tu as deux grandes gammes. Tu as une gamme, ce que j'appelle d'accès. Chez Schott, par exemple, il faut compter entre 500 et 700 euros. Par contre, après, tu as les marques, enfin, tu as ce qu'on appelle les premiums dans ces marques-là, donc les marques faites à la main, comme le perf que celui-là fait aux États-Unis, à la main, entièrement. Ou chez Lewis, il faut compter entre 1200 et 2500 euros.
Ah oui, quand même.
Ouais, ouais, ouais. Mais, encore une fois, là, celui-là a plus de 50 ans, tu l'as là, devant toi. À l'époque, je n'ai pas pris
celui-là. Ouais,
non, rassure-toi. À l'époque, j'ai dû payer, je crois, quelque chose comme 85 $, un truc comme ça. Mais quand c'est vraiment de beaux objets, enfin, c'est mon tableau, quelque part, c'est mon Picasso, c'est une œuvre d'art, et c'est comme ça qu'on les porte.
nobody safe. We're now out in the hot sun breaking rocks. She got me on a 30-day hop. 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 Ooh, yeah. All right.
Avec Daniel Torel, nous sommes en 2020, le futur du style rocker.
Alors, bonne question. Depuis 1914, allez, on va simplifier, ce style n'a cessé d'évoluer. Alors, on est passé des... On va raccourcir de Marlon Brando au blues noir en France, donc des États-Unis à la France. On est passé du monde ska au punk, du punk à l'afterpunk, etc., pour arriver à Johnny Elvis et à nos jours. Et le style rocker est quelque part immortel. Pourquoi ? Parce que tous les grands couturiers se sont appropriés cette légende quelque part. Et on a des collègues à nous, comme Phil Mann, Philippe Manœuvre, il y a des tas de gens qui sont porte-étendards. Et tous les grands mannequins qu'on connaît, des gens comme Kate Moss, Pete Doherty, j'en passe et des meilleurs, ont porté et portent le style rocker, le perfecto. Et c'est d'autant plus vrai qu'à nos jours, ce qui est rafraîchissant pour, quand on voit arriver des jeunes créateurs, on va dire ça comme ça, issus du milieu motard ou biker pour ce qui me concerne, qui ont la moelle de continuer à préserver cette identité, qui est une identité très très forte. Honnêtement, ça mériterait une analyse sociologique de tout ça, parce que ça va loin, ça prend ses racines dans des évolutions sociologiques très très fortes, avec des codes, des incidences qui ne sont pas sans expliquer éventuellement le malaise de la jeunesse actuelle. Et quand on voit justement ce que je te disais tout à l'heure, des jeunes comme Fab Fabien qui veut garder ce côté un petit peu rebelle, un petit peu, enfin promouvoir cette culture ou cette contre-culture, qui est la custom culture ou le style rocker, c'est d'abord un biker, un vrai, qui fait aussi pas mal de dizaines ou centaines de milliers de kilomètres régulièrement, et qui ne veut pas rentrer dans un moule et ne veut pas, surtout pas, porter ce que l'establishment impose à tous les bikers, les trucs qu'on trouve dans tous les magasins, qui ressemblent à tout à rien, qui viennent d'on ne sait où, et qui sont vendus une blinde. Et un petit peu lassé de tout ce qu'on veut lui imposer, s'est dit, mais les têtes de mort, les trucs, les machins, il y en a marre. On n'est pas des porte-manteaux de marque. Je vais faire ce que nos aïeuls ont fait quand ils ont lancé les Perf et compagnie, c'est que je vais essayer de créer une ligne de vêtements. Alors, la première chose pour une ligne, c'est d'avoir une marque. Et il a créé la marque Stirrer, enfin Stirrer en français, S-T-I-2-R-E-R, qui veut dire quelque part, en vulgarité, fouteur de merde, quelque part. Enfin, c'est un agitateur. Agitateur d'idées, agitateur de conscience, agitateur de mouvement. C'est quelqu'un qui, au travers de sa ligne de vêtements, qui est traitant deux couleurs, quelque part, qui est blanche et noire. C'est éminemment manichéen, c'est blanc ou noir. Mais ça peut être yin-yang aussi. C'est-à-dire que tout est dans tout. Donc, il a voulu, et il l'a fait d'ailleurs, il a créé sa ligne de vêtements qui est assez étonnante, qui est très pure et qui se rapproche quelque peu du monde des surfeurs, des kitesurfs, etc., des skaters, du monde de la moto aussi. Donc, c'est quelque chose d'assez large parce que, au fond, ce qu'on s'est dit depuis ce matin, c'est que cet esprit un peu rebelle, cet esprit, encore une fois, disrupteur, un petit peu, pas marginal, mais à la marge d'un système, perdure parce qu'on a des jeunes comme ça qui ont la moelle de pouvoir encore une fois lancer et créer et recréer, régénérer des histoires, des mythes. Et il faut encourager ça parce que c'est ce qui nous donne aussi la fraîcheur d'esprit et ce qui donne aussi beaucoup d'espoir pour les générations futures.
Très bien, Daniel. Et bien, cette fois-ci, je pense qu'on a fait le tour, hein, sur les vêtements emblématiques.
Ah, que du bonheur.
Alors, des motards, des backers, mais de tout le monde, en fait, finalement.
Ben, tu vois, au fond, au bout du bout, ce qui était à l'époque stigmatisé comme étant des voyous, etc., on s'aperçoit que maintenant, c'est devenu des emblèmes, ce sont devenus des totems, ce sont devenus des idoles. C'est ça.
Alors, actuellement, dans le monde de la moto, qui porte encore ce blouson? On n'en voit plus trop, quand même.
Alors, je sais pas, moi je porte le mien, mais si quelque part, c'est porté. Mais maintenant, c'est plus porté comme des vêtements d'apparat, des vêtements de sortie, que des vêtements de moto. Ça, faut reconnaître. Bon, en plus, t'as les normes castatrices aussi, avec les trucs CE, les machins, voilà, qui font que maintenant, il faut mettre un certain nombre de protections, ce qui est plutôt bien. Mais,
dans les années 50, quand on regarde un petit peu ce qui se passait à Londres, à l'Escafé, tu te souviens, je ne sais pas si tu connais l'histoire, tu mets une pièce dans le jukebox et puis il y avait un trajet à faire, il fallait revenir avant que la musique s'arrête.
Tout à fait.
Et ils avaient, c'était des Norton, des Triumph, des BSA, tout ce que tu veux, et ils étaient tous avec un Perfect. Hein.
Tout à fait, oui, absolument. Et puis, alors, les protections, je t'en parlais, à l'époque, c'était les Cromwell,
donc là,
pour ceux qui en mettaient.
Il n'y avait que ce vêtement-là qui était accepté par les bikers.
Et ça l'est toujours. Et ça l'est toujours. Donc, l'histoire continue, elle évolue, elle s'améliore, elle se peaufine, mais elle continue, elle ne s'arrête pas.
Merci Daniel pour cette aventure du vêtement et du perfecto. Merci encore.
Merci Lamich. Stopping all the byways, playing rock and roll.
second hand. That's how it goes, playing in a band. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. If you wanna be a star, stage and a screen.
Ça, c'est pas du Vauxhall, ça. Le moteur, il voit deux fois Vauxhall. Voilà. Donc, 20 ans, c'est le nombre de bougies que le roadster Vauxhall s'apprêterait à souffler si la marque existait encore. Voilà, on va revenir donc sur cette marque emblématique française. Hein, donc, moteur Vauxhall. Au début, on ne savait pas s'il fallait dire Vauxhall, Vauxhall. Pendant quelques années, enfin 2 ou 3 ans.
Vauxhall avait... comme volcan, simplement.
Ouais, voilà, c'est voilà. Ça. Et on a fixé le nom. Voilà. Donc, Jean-Michel du club, parce qu'il existe encore. Le club.
Bien sûr, le club existe. Il existe depuis 2001.
Et lui, il n'est pas mort, le club.
Du tout, du tout. On est très actif. Il y a des manifestations. On va sur circuit. On fait. On va à Moto Légende. On va à Iron Biker. Il y a plein de dates comme ça. Surtout cette année pour fêter les 20 ans.
Je te propose donc de revenir un petit peu sur la naissance, la genèse de cette marque. Moi, j'ai vu en janvier 98. Donc c'est Jacques Cardette hein, qui est pourtant pas passionné de moto et qui va créer, qui va avoir l'envie de faire, de créer une marque de moto française.
Si il était passionné, il était pharmacien.
Il était pharmacien.
Il a fait fortune dans la pharmacie et il a voulu construire de A à Z une moto. Donc à part 95, qu'il a voulu se lancer dedans. Donc il a fait appel à des spécialistes. À l'époque, il y avait Alain Chevalier, par exemple, qui faisait des motos GP. Il lui a demandé...
Pour faire la partie cycle.
Pour faire la partie cycle et demander un petit peu au niveau moteur ce qu'on pouvait mettre dedans. Donc ils sont partis sur un bicylindre et ils ont demandé à une société française, la Sodemo, qui fabriquait des moteurs pour Peugeot, de faire un moteur en V. Et comme ils faisaient des V12 à 72 degrés, ils ont pris, sur leur savoir-faire, un moteur V2 à 72 degrés.
Alors, ce moteur à 72 degrés, ça permettait d'avoir un peu, plus souple et de pas avoir de balancier de.
Voilà, il y a pas de balancier d'équilibrage. Hein, il y a des vibrations, mais juste ce qui
remet du poids en fait dans la moto. Hein. Il voulait avoir. Au départ, c'était des motos très légères.
Oui, c'est ce qui a été fait. Il voulait une moto légère où on voit pas le cadre. C'est pour ça qu'il y avait un cadre avec des poutres.
On voit pas le cadre.
Donc, il est apparent. Et les dessinateurs qui ont fait la forme du moteur ont voulu quelque chose de beau. Donc il est dessiné. Alors, vraiment pour être vu.
Voilà. Donc décembre 98, avec quelques mois de retard, les Vauxhall de pré-série sortent des chaînes d'assemblage à Issoire.
À Issoire,
c'est en Auvergne.
Oui, c'est ça.
Tout près de Clermont-Ferrand.
Oui, juste en dessous.
L'usine est comment? C'est un petit bâtiment. C'est comme Harley Davidson, c'est une petite baraque.
C'était tout petit et ils avaient. Moi, j'ai pas vu. J'ai connu que le nouveau bâtiment et 125 personnes à travailler dans ce bâtiment qui commençait à être trop petit. Donc, ils ont voulu s'agrandir et demander d'autres bâtiments et ils ont changé.
Donc, 99, là, il y a le groupe Dassault qui vient remettre un petit peu d'argent dans le capital.
Oui, Dassault, oui.
Parce que, apparemment, on fabrique quand même et il faut payer aussi les salariés.
Et ils avaient des problèmes de fournisseurs qui ne fournissaient pas certaines pièces. Donc, ils étaient un peu coincés. Donc, ils ont besoin d'argent. Donc, ils ont voulu s'agrandir parce qu'il y avait beaucoup de commandes à l'époque. À l'époque, Moto Journal, Moto Revue, enfin, toutes les grosses revues faisaient des articles toutes les semaines sur la naissance de cette moto.
Et on ne voyait pas arriver.
On ne la voyait pas arriver parce qu'ils avaient des problèmes de sous-traitants. Ils ont voulu travailler comme dans l'automobile.
C'était quel modèle?
Alors, c'était toujours le tout premier, c'était le Roadster.
Le Roadster, voilà.
C'est pour ça qu'il a 20 ans.
Qui fêterait ses 20 ans, voilà. Mais c'est les 20 ans de l'année.
Et là, en ce moment, il y a des articles qui apparaissent dessus. Il est 20 ans après, il est toujours à peu près d'actualité. De toute façon, nous qui
on l'a. Alors, dans une revue, là, on a vu, ils ont fait un essai dans une revue, là, je peux dire le nom. Ils ont dit, finalement, ça n'a pas trop vieilli.
Bien sûr, oui.
Et ça pourrait tenir la tête à des roadsters modernes des années 99.
On dit toujours un énervé en boxant en montagne peut en remettre beaucoup. Beaucoup d'autres qui ont des motos beaucoup plus puissantes. Non, 100 chevaux, ça suffit. Surtout en montagne.
Oui, alors, 100 chevaux, parce qu'on était encore à l'époque des 100 chevaux. On pouvait pas aller au-dessus, en France.
Mais elles ont été fabriquées pour faire 100 chevaux. Et c'était pas des moteurs de 120, 130, 140 chevaux qui étaient dégonflés. Elle s'était prévue et elle marche très très bien. Elle a peine d'avoir plus.
Et là, Jean-Michel, je sais pas si tu sais, mais le 23 mars 1999, le président Jacques Chirac fait présenter deux exemplaires de la nouvelle moto française.
Je suis au courant. Ça,
il les a conservés en plus. Oui. Je sais pas s'il y avait son permis moto et peut-être pas le droit de rouler en moto, Jacques Chirac.
Elles étaient jaunes. La première moto était jaune. Les roadsters d'origine jaune,
voilà.
Jaunes.
Oui,
bien sûr. Elles étaient sublimes. Elles sont toujours sublimes.
Oui, elles sont toujours sublimes. C'est vous qui faites perdurer aussi marque de moto française. On va parler un petit peu aussi de la compétition parce que, chose qu'on ne sait pas, c'est que aussi Vauxhall a participé à des épreuves très renommées.
Oui, tout au début, ils ont commencé en 2001 à faire les 24 heures du Mans avec des cafés racers qui faisaient juste 100 chevaux. Donc, il y en avait deux qui avaient été engagés, une qui a pu se qualifier. Et ils ont commencé à faire un proto pour faire du Pro Twin. Donc un proto qui était développé sur la base du café racer.
Et Fabrice Miguet qui a tourné au Tourist Trophy avec une Vauxhall.
Oui, il a tourné
avec la Black Magic.
Au moins avec la Black Magic, le proto de la Black Magic avec c'était vraiment un proto, il avait un bol comme un chevalier et il a eu un succès fou parce que les motos étaient toutes puissantes sauf celle-là qui faisait juste 100 chevaux et il a eu un succès par rapport au niveau des Anglais, c'était
au moto tour aussi.
Moto tour, moto bleu blanc rouge.
Donc pilote français au Tourist Trophy, pilote français, moto française.
Oui, non, mais il était très très français, pro français, il avait plusieurs Vauxhall chez lui. Dernièrement, il avait fait aux États-Unis faut que je retrouve où c'était à Pick Spike, il avait engagé un café racer.
Il
nous avait demandé au club si on n'avait pas un moteur pour lui prêter. Non, c'était vraiment un fan.
Très bien. On va passer à un morceau de musique et après au téléphone nous allons avoir un pilote.
Oui, Bruno Destop
qui a participé lui.
Oui, il a participé tout au début à l'aventure des 24 heures du Mans et au développement du proto.
Il va falloir le couper parce qu'il paraît qu'il parle beaucoup.
Il parle beaucoup, il est passionné.
Mais c'est pas grave, s'il est passionné, il va nous passionner aussi.
Il est comme moi, il est passionné.
Allez, on passe un morceau de musique et juste après, on retrouve Bruno Destop. We'll be right back. parle l'aventure Vauxhall, la moto française des années 2000, hein, Jean-Michel, avec un pilote, Bruno Destop au téléphone.
Oui, bonjour Bruno, c'est Jean-Michel.
Oui, bonjour. Ça va bien? Donc,
bonjour.
Voilà. On aurait bien voulu savoir un peu au début, en 2001, l'aventure, quand ça a commencé pour toi, au niveau du Café Racer. Raconte un peu.
Moi, ça a commencé avec Robert Deron, qui était le propriétaire, le responsable de la concession Paris Nord Moto, une grosse concession en région parisienne, qui a engagé une Vauxhall aux 24 heures du Mans. Donc, il y avait deux Vauxhall engagés. Il m'a demandé si ça m'intéressait de rouler pour lui. Au début, j'ai refusé parce que j'étais engagé dans un autre team. Et quand après, il m'a dit que c'était pour rouler sur la Vauxhall, j'ai laissé tomber l'autre team. Enfin, c'était à peu près vu au départ aussi que je pouvais éventuellement changer de moto au cas où. Et pour rouler sur la Vauxhall. Alors, je savais qu'on ne serait pas performant. Je savais aussi qu'on risquait de ne pas être qualifié. Mais moi, ça me plaisait de pouvoir participer à cette aventure. Et donc, on a fait les essais des 24 heures. On n'a pas été qualifié parce que c'était la moyenne des trois pilotes. Et puis, du coup, il y a un pilote qui était un petit peu en retrait. Et du coup, on n'a pas été qualifié. Par contre, moi, j'avais remonté pas mal d'infos pour la mise au point de la moto parce que c'était le but. Hein. C'était un essai grandeur nature. Et du coup, Alain Chevalier, qui était le responsable technique, m'a demandé si ça m'intéressait de faire du développement avec eux. Et donc, c'est ce que j'ai fait.
Et du coup, tu as développé le proto, c'est ça? Oui.
Oui, on a développé. Il y a plusieurs protos. Il y avait un proto sur une base de Café Racer qui avait un moteur en 1100 cm3, je crois, qui était super bien, en technologie avec. Les culasses à linguer, je sais plus exactement, mais ça marchait vraiment fort. Après, ça manquait un petit peu de... Il fallait un peu de temps pour fiabiliser tout ça. Il fallait faire des essais. On avait des fournisseurs qui jouaient pas vraiment le jeu, qui donnaient pas vraiment des bonnes pièces, hein, ce qui fait que ça a mis un petit peu le bazar dans les essais où on a perdu du temps. Mais quand ça marchait bien. Et puis, après, il y a les problèmes qui ont commencé à arriver. Donc, il n'y avait plus vraiment d'argent pour faire de développement. Et moi, je continuais à le faire de temps en temps, comme ça, quand il avait besoin. Ou alors, il m'envoyait faire une course, soit à Seine. À Seine, il y avait un championnat d'Europe, Sud of Thunder. Et c'était que des motos, des Bistinam, principalement des Ducati. Et j'avais réussi à faire quatrième, je crois. Et dans une catégorie, j'ai fait quatrième, l'autre, j'avais fait cinquième. Et ça avait surpris quand même tout le monde, parce que la moto, ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle soit aussi performante. Et donc, après, ça s'est arrêté. Enfin, voilà. Et en 2005, moi, j'ai fait un petit peu des pieds et des mains auprès des nouveaux dirigeants de Vauxhall pour pouvoir rerouler avec un des protos en Pro Twin. Donc ils n'étaient pas vraiment chauds à me prêter la moto parce qu'ils avaient peur que la moto soit ridicule et que ça fasse une mauvaise pub. Et puis j'ai réussi à les convaincre. Et puis on a joué le championnat. J'ai même été en tête du championnat pendant une bonne partie de la saison. Et malheureusement. À la dernière course, je pouvais être titré encore, mais il fallait que je termine premier. C'était bien parti toute la course. J'étais deuxième, vraiment au cul du premier, et je savais que, je peux pas le prouver aujourd'hui, mais au fond de moi, je savais que je pouvais passer et partir quand je voulais. Malheureusement, il y a un commissaire, un directeur de course qui m'a arrêté. Donc moi, j'ai mis quelques tours avant de m'arrêter, mais ils m'ont obligé à m'arrêter. Parce que soi-disant, ils avaient vu une fuite d'huile sur la moto. Donc je me suis arrêté au stand et arrivé là. Quand je suis sorti des stands, ils ont changé le numéro. Et après, j'ai appris que c'était une erreur. C'était pas moi qui voulais arrêter, parce que moi j'avais le numéro 60.
Ah, c'était la partie de la malchance.
Un commissaire français.
Voilà. c'était la 63.
J'espère que tu as quand même déposé une réclamation quand même.
Ouais, j'ai déposé une réclamation, alors ça a pas pris. Mais de toute façon, le championnat a été plié, ils n'ont pas voulu revenir, Voilà. Ils n'ont pas voulu, c'était assez compliqué. Et du coup, bah, l'aventure s'est un peu arrêtée ici. Mais en parallèle de ça, je faisais le moto-tour aussi avec une street scrambler.
Jaune, qui oui, ensemble, oui, oui.
Engagée par le Vauxhall Club de France. Et d'ailleurs, l'aventure Pro Twin, c'est aussi, ça a pu se faire grâce à Paris Nord Moto, grâce à Michelin, grâce à Vauxhall Club de France. Et grâce à moi, parce qu'on y a tous mis des billes pour pouvoir vivre cette aventure. Moi j'ai vécu une année mais top. J'ai rencontré des gens mais formidables. Il y avait une ambiance autour de cette moto. C'était vraiment. Moi j'ai que des regrets hein, parce que ouais. C'était. Je pense que ça pouvait être quelque chose de bien quand même. Avec Alain Chevalier, on en discutait des fois en disant que c'était vraiment malheureux, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Hein,
le proto est arrivé à combien de chevaux?
Le proto, il arrivait à 135 chevaux, à peu près, 140. Mais le problème, c'est que comme l'usine faisait plus de développement, comme ils montaient des motos, ils essayaient déjà de les fiabiliser, enfin, ils étaient fiables, hein. Mais pour la course, il aurait fallu un peu plus de pièces. D'ailleurs, il y avait des pièces qui existaient, mais malheureusement, comme ça a changé de dirigeant, ça a changé de personnel, ces pièces-là, on ne sait pas trop ce qu'elles sont devenues. C'est parti dans la nature, comme ça. Et ce qui fait qu'on n'a jamais vraiment pu faire le moteur. Moi, j'ai fait toute la saison avec un moteur d'origine, quasiment. D'origine, avec juste quelques modifications pour atteindre les 130 chevaux. Et on se battait face aux Ducati, face à des Suzuki TL1000. Mais c'était une moto qui marchait super bien, une partie cycle de folie. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, j'ai jamais roulé sur une moto qui était aussi bien.
Voilà, on parlait de plaisir, Fabrice Miguet. Je ne sais pas si tu connais Fabrice Miguet.
Oui, oui. J'ai
roulé aussi au Tourist Trophy, hein, pilote français, moto française, là-bas, sur l'île de Man.
Ah, on a fait le moto-tour ensemble. Lui, il l'a fait sur un café.
Alors, moto-tour aussi, et puis cette fameuse course dans les nuages, là, Spice Peak,
ouais. Ouais. Ah, ouais.
Voilà. On n'a pas retrouvé son classement au Tourist Trophy, combien il avait terminé. On ne sait pas.
Oui, je ne sais pas exactement, je l'ai su, mais je ne me rappelle pas. Il avait bien roulé hein, avec cette moto. Il avait bien roulé. C'est sûr que par rapport au... La moto était beaucoup moins performante que les 1000 et tout ça de l'époque. Hein. Parce qu'il y a ça maintenant, ça passe vite, mais je dirais qu'il y a 10-12 ans, peut-être qu'il a été fait l'île de Man.
Oui. Alors, on parlait avec Jean-Michel que finalement, c'est une marque qui n'a pas de chance, en fait. C'est malheureux, en fait. Il y avait eu plein de choses comme ça, un peu comme ton aventure, là. Le pilote qui t'arrête, le commissaire de piste qui t'arrête et pour te dire que la moto perd de l'huile, alors que c'est pas toi, c'est un autre concurrent.
Ah ouais. Ouais,
et d'autres anecdotes aussi que Jean-Michel a en note là. Il est arrivé plein de choses comme ça, cette marque qui malheureusement a disparu.
Oui, exemple en 2005 quand ils ont sorti la charade au salon de la moto, le directeur de l'usine est reparti avec la charade, il a fait un accident. Après il n'y a plus personne.
Il n'y a plus de directeur.
Plus de directeur et voilà.
Pendant trois mois, les salariés se sont trouvés tout seuls après, dans l'usine.
Un importateur, la Sidam qui a voulu importer, s'occuper de la commercialisation, ça a foiré aussi. Donc voilà, il y a eu plein de choses qui ont fait.
Il y a eu des mauvaises. Il y a eu des repreneurs, des escrocs.
Oui, foireux,
des escrocs qui ont pris les plans. Et en gros, après, ils avaient ce qui les intéressait. Et puis, alors je crois qu'ils ont réussi à récupérer tout ça, mais c'est vrai que c'était que de la malchance.
La période 2000, hein, ça, effectivement.
Moi, je suivais ça un petit peu grâce à Alain Chevalier parce que je l'appelais régulièrement ou il m'appelait pour me donner des nouvelles et c'était compliqué, quoi. Il n'y avait rien qui se passait comme prévu. Il y a des gens qui devaient réinjecter de l'argent qui en réinjectaient pas. À croire que c'est certaines personnes qui avaient une envie et que ça s'arrête.
Oui, il y avait Dassault qui était dans l'équipe qui est parti. Du coup, les banques sont parties aussi. L'histoire d'Internet aussi. Donc, et l'argent est parti de ce côté-là. D'après Jacques Gardette, le fondateur, c'était pas la bonne époque pour sortir une moto.
Alors, la partie cycle était astucieuse, hein, parce que dans la partie cycle, il y avait la boîte à air qui était intégrée dans le cadre. Les deux gros tubes là qui sont.
Mais c'est marrant parce que. Tout le monde regardait cette moto. Moi, le premier, hein, quand ils m'ont dit, ils m'ont envoyé à Seine faire une course, en plus pas de séance d'essai libre, directement séance qualif, je me suis dit, enfin j'étais Daniel Lehec, un copain qui me suivait tout le temps, je lui ai dit, oh là là, bah là on n'est pas, on est mal barré quoi. Parce qu'en plus, moi j'aime bien, avant de monter sur la moto, j'aime bien regarder un petit peu la fourche, l'amortisseur, comment ça fonctionne. Et tout ça, c'était un petit peu mou. Alors je me suis dit, mais oh là là, ça va jamais marcher.
C'est pas de facile.
Et c'était impressionnant.
Et ça marchait très très bien, oui.
Ben oui, c'est là où Alain Chevalier avait fait un truc de fou, c'est que la moto pouvait être, et la moto de route, elle est comme ça, elle peut être confortable, et en même temps, quand on attaque, elle reste bien amortie, elle se désarticule pas comme... elle bouge pas, comme certaines motos qui sont très...
Ouais, c'est un rail, oui, oui.
Ah ouais, c'est un rail. Et tout le monde me disait, mais comment ça peut tenir la route avec deux malheureux tubes comme ça, en office de cadre? Ben ouais, mais c'était rigide, il y avait le moteur aussi qui participait à la rigidité, tout ça. Et c'était assez, c'était une moto qui était assez impressionnante. Et Alain Chevalier, à chaque fois, je lui disais, moi, il m'a toujours impressionné, ce bonhomme, parce que il a fait des choses, hein, des motos qui étaient magnifiques. D'ailleurs, il a quand même fait des motos qui ont été vice-championne du monde, vice-championne du monde, en 250.
250, oui.
250 avec Didier de Radiguez.
Une particularité aussi, pour l'époque, c'est l'amortisseur qui passe en dessous du moteur. Il y a, dans ces années-là, c'était pas courant quand même.
Oui, oui, oui c'est vrai. Ouais. Mais lui, il inventait plein de choses d'ailleurs. Il y a des choses qui ont été reprises après par des constructeurs, alors forcément améliorées pour pas copier, mais...
Il était trop en avance, et du coup, c'est tout ce qu'il avait inventé, c'est sorti après, oui. Et maintenant, c'est la mode. Ouais. Oui, oui. Alors, alors, une question pour finir l'interview, est-ce que si la marque existait encore, ce serait quoi? Quel modèle en 2019, je veux dire, quel modèle aurait-elle sorti? On verrait quoi, je sais pas.
Ah, bon, ça aurait été certainement comme les concurrents, ils auraient sorti une grand tourisme, ils auraient peut-être fait un trail, je ne sais pas au juste. Hein. On ne saura jamais. Il y avait des plans qui étaient derrière. Oui, vas-y Bruno.
Je vais juste dire un truc. Moi, le proto que j'ai roulé, le proto caréné avec lequel j'ai roulé en Pro Twin, il avait le pot sous la selle. Hein. Et ça, c'était les premières machines à avoir le pot sous la selle.
Oui, un peu comme les VB1. Hein. Oui.
Voilà.
Oui, il y a eu cette époque aussi VB1, là, elle était sublime, cette moto.
Ah ouais. Ouais, c'était vraiment une super machine. Enfin, c'était une belle machine. Ouais.
Ça chauffait beaucoup aux fesses parce que le pot passait juste derrière, mais elles étaient belles, voilà. Très très belles. Et ouais. En avance sur leur temps. Oui.
Mais après, c'est pareil. C'était une machine française. Donc j'ai l'impression que de toute façon, quand c'est français, enfin en tout cas en moto, ça ne marche pas.
Oui,
il y a Sherco qui s'en sort quand même pas mal.
Voilà, c'est ce qu'on cherchait, un constructeur Sherco. Voilà. Oui. On a encore un constructeur français. Voilà. Et puis aussi, mais Midual.
C'est particulier, c'est cher.
Hein. Bon voilà.
Ouais, ouais.
Très bien Bruno pour avoir répondu toutes ces questions du motoclub Vauxhall, Jean-Michel.
Oui, bien sûr, c'est moi qui l'ai contacté. je l'ai forcé un peu, mais j'ai pas besoin de le forcer. C'est bien dommage
quand même. Bon, mais on n'a pas de chance finalement. On n'a pas de chance.
Malheureusement,
c'est pas de chance du tout. Non.
Voilà, très bien. Merci et bon dimanche, bonne fin de journée.
Merci à vous.
Puis à bientôt.
J'espère à bientôt et
à bientôt, bon dimanche.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Voilà l'histoire Vauxhan, cette marque de moto française, années 99, 98, 96. Ça commence
Fin 95 et finit en 2010.
La moto Vauxhan arpente les Champs-Élysées à la faveur de la livraison des machines aux 66 premiers concessionnaires de la marque. Une randonnée de prestige est organisée dans la capitale.
Ouais, c'est ça, oui. Et après, en 2000, donc le 11 avril 2000, il y a le Café Racer, l'autre modèle qui est emblématique, qui est sorti. Après, ils ont eu des problèmes financiers.
Regarde, Jacques Cardette, hein, qui avoue quand même c'est un peu pressé. Hein, maintes fois annoncé et maintes fois retardé. Hein, la commercialisation de la Vauxhan, initialement prévue en 98, ne débute qu'en mai 99.
Oui, c'est ça.
Donc, ça, voilà, on ne vend pas de machines, donc il faut quand même de l'argent.
Oui, voilà.
Donc c'est les banques qui alimentent.
Voilà, c'était les banques qui alimentaient. Et puis, à un moment donné, elle a voulu s'agrandir.
Seule une centaine d'unités sont livrés à ce jour. Ça, lors d'une conférence de presse, Jacques Cardette reconnaît « Nous avons fait une bêtise en présentant la Vauxhan lors du salon de Duroux à Paris en septembre 97 ». Oui, il est un peu prématuré quand même.
C'est parce qu'il y avait aussi
la charrue avant les bœufs.
Il y avait la presse qui était derrière aussi, qui à l'époque, toutes les semaines faisait des articles. Alors qu'un peu plus tard, quand il aurait fallu sauver la marque, dans les années 2007-2008, bah, la presse n'était plus là du tout. Oui. Au contraire, il faisait des articles en disant « Ah, bah, l'usine va mal, n'achetez pas français. »
Alors, 11 avril 2000, Vauxhan élargit sa panoplie avec la version Café Racer.
Oui, c'est ça, oui.
Janvier 2001, Vauxhan réclame plus de place pour produire sa moto française à Issoire et menace d'aller voir ailleurs. Oui, mais il lui faut 30 millions de francs et les banques refusent de suivre.
Voilà, ils ont quitté le navire, ils n'ont pas suivi.
Voilà.
Donc il y a une mise en liquidation en juin 2001.
Et période d'observation de 6 mois de la société Vauxhan.
Voilà, donc il y a eu du chômage partiel, il y a eu après des repreneurs, comme disait Bruno, qui étaient des escrocs, il y a eu des
Renault, en 2001, apparemment, Renault s'intéresse apparemment à la reprise de Vauxhan, mais Renault dément, finalement.
Renault, Peugeot, c'est pareil, ils n'ont pas voulu suivre l'aventure. Personne n'a voulu
suivre l'aventure. Donc là, le 15 octobre 2001, 80% des 125 salariés sont mis au chômage partiel.
C'est ça, oui.
Pour une durée de 4 semaines. Et là, je me souviens de ça aussi, le 3 novembre 2001, les motards de la France entière se mobilisent. Il y avait des quêtes qui étaient faites pour donner de l'argent.
Parce que c'était une quête française qui était nouvelle et on ne voyait pas pourquoi ça n'allait pas pouvoir continuer. Donc,
500 pilotes défilent sur le boulevard, les boulevards de la sous-préfecture du Puy-de-Dôme.
Oui, donc après, il y a eu un plan de cession pour éviter la liquidation judiciaire. Et
en 2001.
En 2001, et ils ont essayé d'avoir des différents repreneurs. Il y en a un qui a, réussi.
On parle du groupe suisse Merker, là.
Oui, et c'était des escrocs.
Pas de chance, encore une fois.
Ils voulaient voler la technologie.
Ils voulaient piller la marque.
C'est
ce que
disait Bruno. Oui, c'est ça.
Hein, donc, finalement, ils vont se retirer.
Ils vont se retirer et le seul qui va reprendre, ça sera Didier Cazot qui va.
Alors Cazot, c'était celui qui avait le. C'est plutôt des bateaux, lui.
Des bateaux d'équipage, oui, c'est ça. Et il avait prévu de faire une production de 700 motos à partir de 2003. Donc quand il a repris, la première moto qui est sortie de la nouvelle usine de l'Air Cazot, c'était un Scrambler. C'était en avril 2003.
Alors tu me disais que justement les Cazot, donc il y avait des subventions, la région Puy-de-Dôme donnait des subventions à la société pour éviter justement pour aider l'usine à rester en activité avec les salariés.
Ils étaient 15 employés.
Mais tu disais que lui, il prenait plutôt l'argent pour ses bateaux.
Et voilà, il y avait les deux sociétés. Quand ça a été vendu, quand ça a été liquidé entre 2009 et 2010, c'était pour renflouer les banques. Vous voulez se renflouer parce que au niveau des bateaux, ils ne pouvaient pas les prendre, ils ont pris la société de moto. Et du coup, ça a été vendu pour être sûr qu'on ne puisse pas récupérer une fabrication. Ça a été vendu en deux fois. On a vendu l'outillage et puis le lendemain, on a vendu la marque. Donc personne ne pouvait reprendre pour l'ensemble. Donc au Vauxhan Club, on a cotisé, on a fait une cagnotte et on a réussi à acheter un lot de motos, des pièces. Et il y avait les dernières VX10 qui étaient dedans. En cours d'assemblage, qui ont été revendus au club, aux membres du club, et qui les ont réhomologués pour que ça puisse continuer.
L'histoire DJ Cazot, là, c'est en 2002, et l'espoir, l'espoir a été revenu quand même, surtout pour les salariés aussi, de la société.
Ils étaient quoi, 10, 15, pas plus. Et ils ont dû faire avec ce qu'ils avaient au niveau des motos. C'est pour ça que Bruno disait qu'il n'y avait pas de développement de compétition, il n'y avait pas d'argent. C'était le club qui faisait les salons. En 2007, on a fait le salon de la moto à la place de l'usine, ils ne pouvaient pas se déplacer.
Donc on termine un peu toute cette histoire, parce que de toute façon, finalement, c'est triste.
Oui, c'est triste, hein, oui, bien sûr.
C'est pas, je ne sais pas ce que tu en penses, Loïc, aussi.
Personne, à la fin, personne.
Bon, donc, ça se termine quand? J'ai pas la date.
Alors, c'est en mai 2010, début mai 2010, il y a eu la vente aux enchères. Et puis, tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a eu quoi en tout, une dizaine d'années, 2850 motos qui ont été faites.
C'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup.
2800, voilà. On peut pas faire vivre une société avec une vente de 2800 motos vendues. Hein.
Voilà,
on peut pas faire de développement, on peut pas faire de compétition, on peut rien faire.
Vous pouvez rien faire.
Non.
Il n'y avait plus de concessionnaire, il n'y avait pas de publicité dans les magazines, donc il n'avait pas d'argent. Cazoo n'a pas donné d'argent pour les employés.
Et c'est bien triste parce que finalement, maintenant, il ne restait plus rien sauf le nom Vauxhall. Je ne sais pas à qui ça appartenait, le nom Vauxhall.
Ça appartenait à Guildo Pastor qui avait racheté juste le nom et qui faisait des véhicules électriques.
Oui.
Mais là, donc apparemment, maintenant, c'est des pesticides.
C'est un milliardaire monégasque
qui a fait aussi les voitures Venturi.
Les voitures Venturi, oui. Et puis qui est aussi dans l'agroalimentaire, je crois. Il a fait fortune par là, je sais pas bien.
Je sais pas. Dans l'immobilier aussi, je crois.
On dit en début d'émission, Vauxhall, maintenant, c'est collé à un désherbant, un pesticide. C'est désolant, hein.
En plus,
il pollue. Il donne des cancers aux gens.
Donc
ça continue à ma chance.
Ma chance continue. Bon, alors nous au niveau du club Vauxhall Club, nous on continue à les faire vivre ces motos. Donc on sait qu'il y a un magasin Moto Vaux qui a une bonne partie du stock de l'usine qui a été racheté. Donc c'est le magasin qui les a. Tout ce qui n'a pas été, qui a pas dans le stock de Moto Vaux, c'est le club qui fait refabriquer.
Est-ce qu'on a le droit encore? Tu me disais qu'on n'avait pas le droit de refaire des pièces parce que justement le milliardaire a interdisé de.
Voilà, Guildo Pastor n'a pas jamais donné un écrit autorisant les anciens sous-traitants à refabriquer des pièces identiques. Donc par exemple les arbres à cam, ils ont été faits par les mêmes sous-traitants, mais avec des caractéristiques différentes parce qu'on n'avait pas eu le droit d'utiliser. Les arbres à cam d'origine.
C'est l'argent qu'il a dépensé pour son stand là, au salon de la moto là.
Pour faire la voiture.
Je sais pas combien il y en avait. Pour faire cette moto qui de toute façon ne pouvait pas rouler,
qui était vide,
et qui de toute façon qui pouvait pas rouler. S'il l'avait donné justement à l'usine pour justement aider à sortir des.
Il voulait faire que l'électrique.
La conception et sortir des modèles, ça serait un peu. Juste,
trop tard, voilà.
Et tu dis qu'on peut encore en acheter neuf.
Je pense qu'en allant chez Moto Vaux, il n'y a pas encore si longtemps que ça, il y avait encore des motos en caisse qui pouvaient être vendues, des Black Classic par exemple. Il y avait des Street Scrambler et des Café Racer. Il circule aussi certaines VX10. Je vais normalement en recevoir une bientôt pour le Noël.
La VX10, ça avait bien, non?
Alors la VX10 c'est le dernier modèle qui est sorti et qui aurait dû sauver l'usine.
Avec les deux phares superposés.
Avec les deux phares.
Et
voilà, et ils ont aussi de la malchance parce qu'au moment de la sortir au mois de juillet, le fournisseur en Italie de sel a fait faillite, donc ils ont été récupérer les moules en dernière minute. Ils ont demandé à un fabricant français de sel elles étaient prêtes mais il n'y avait pas de sel.
Il n'y a pas de sel. Oui, tu peux pas vendre une moto sans sel. Hein.
Et en août, c'était les scellés. Donc après, ils ont fait de la compétition, ils ont fait le moto tour, ils ont gagné, ils ont fait le moto tour et le championnat du monde de rallye. Ils ont été champions du monde, mais comme il n'y a pas eu de salon de la moto juste après, parce que c'était la crise, personne n'a su qu'ils étaient champions du monde, que ces motos étaient bonnes, c'était une moto pratiquement stock. Et voilà, c'était la fin. Il faut savoir qu'au moto tour, cette année-là, il y a aussi un Café Racer qui avait 70 000 km, qui a été promu en promotion, donc c'était des motos qui étaient faites pour la compétition alors qu'elles étaient d'origine. Pas besoin de changer d'équipement dessus. Elles étaient très très bonnes. Bruno qui disait que c'était de bonnes machines. Bon, moi j'en ai une, je suis très content.
Très bien.
Je la garde.
C'est si dans l'occasion, la cote de l'occasion, enfin maintenant tu sais, ça va passer plutôt côté collectionneur.
Ah oui, très cher. Non, mais il y a des prix qui s'envolent.
Oui,
bon, voilà. Si, il y a des scramblers qui sont à 12, 15 000 euros, alors que normalement c'était 4, 5 000 euros. Non, mais ça, c'est extrêmement cher par moment.
Finalement, quand même, il y avait quand même des problèmes techniques de fiabilité, quand même, surtout sur les arbres à cam.
Sur les toutes premières motos, oui, c'était des motos de pré-série. Comme n'importe quelle marque, au début, il y avait des problèmes. Donc, il y a eu quelques arbres à cam, il y a des gens qui étaient
malchanceux. Sur les scramblers, apparemment, il y avait des problèmes plus sérieux.
C'était forcément les moins fiables. Mais bon, si je voulais résumer, il y a des motos qui tournaient, qui faisaient le moto tour à 100 000 km, et 70 000 km aussi. Donc, voilà.
Il fallait avoir du bol, quoi. Oui. Pas tomber sur le modèle.
C'est un peu embêtant quand même, Jean-Michel.
Mais moi,
la mienne marche très très bien. Ouais, il y en a beaucoup qui marchent très très bien aussi.
D'ailleurs, il y a eu un kit évolution, hein, ce qui a été proposé.
Oui, et les motos qui sont sorties après 2003 avaient toutes d'origine ce kit évolution. Les motos se ressemblaient, mais elles avaient, il y a eu des évolutions tout le temps. Ils ont amélioré. C'est les premiers modèles qui avaient, soit qu'ils étaient très costauds, soit qu'ils pouvaient casser tout de suite. Mais il y en a des premiers modèles qui n'ont eu aucun souci et qui n'ont même pas le kit évo.
Et puis, finalement, si ça n'a pas marché, c'est bien de notre faute, à nous. Nous, les motards.
Bah, les gens n'ont pas acheté.
Hein oui, voilà. Nous, on les motards français d'abord. Ouais. Parce qu'elles se vendaient plus en Allemagne.
Oui, bien sûr. Ils aiment bien les bicylindres là-bas. Donc,
voilà. Alors, c'est quand même paradoxal.
Et oui, mais c'est le français.
Alors, nous, on achetait des BM et puis finalement, les Allemands achetaient des Vauxhall.
Oui, mais bon.
Alors, si on avait acheté des Vauxhall, on ne serait peut-être pas là.
Moi, j'ai acheté la Vauxhall hein, en 2006.
Oui,
l'usine devait fermer. Je l'ai acheté neuve à Lys.
Bah oui, mais regarde, on parlait de la représentation des concessionnaires. On ne savait pas si c'était des endroits ici. Voilà. Ouais. Et puis, là, qui voulait, c'était intéressé à la machine. Ouais. Mais à l'époque, c'était 12 000. Alors, ouais. Il vendait 12 000 euros et ça faisait très cher par rapport à la concurrence.
Oui, il n'y avait pas les moyens. C'était complètement français. Même le moteur, le cadre, tout était français.
Oui, et c'était fait à la main. Écoute, moi je suis d'accord, moi aussi. Je peux être franchouillard, cocorico, mais le pognon,
si t'as pas 12 000. C'était aussi cher, hein, y en avait d'autres.
Oui, mais
les Guzzi, les Ducati, t'es cher aussi.
Je sais pas, l'équivalent. Non, non, c'était moins cher quand même. On la comparait plutôt avec le Monster, le Ducati. Hein. C'était une machine, la rivale
de la rivale, mais elle était déjà en refroidissement liquide, elle faisait déjà 100 chevaux, oui. elle tenait, je crois, mieux la route. On a fait peur à Ducati de toute façon. Et le problème aussi, c'est que certains fournisseurs faisaient pour Ducati et pour Vauxhall. On leur a fait comprendre qu'il fallait faire que Ducati, même certains concessionnaires.
Il fallait pas faire la vente.
Donc, le petit Vauxhall a fait peur à beaucoup de monde quand c'est sorti.
Très bien, on a quelque chose à ajouter encore sur Vauxhall.
Ce que je pourrais dire, c'est qu'on a un club et les gens qui veulent acheter des Vauxhall, il n'y a aucun souci de fiabilité maintenant. On a 400 adhérents, on fabrique des pièces, on a des personnes qui les réparent, même si on n'a pas beaucoup de concessionnaires, mais les gens sont très très solidaires au niveau du club.
Vous faites un rassemblement national chaque année.
Alors on fait une AG en mai et on fait en octobre l'anniversaire et bien sûr on le fait en Auvergne.
Et l'AG, ça se fait dans différentes régions. À côté de l'usine, l'ancienne usine Vauxhall.
Entre 50 et 100 km de l'usine, ça dépend des années, on change un petit peu. Mais quand on est près de l'usine, voilà. Alors il faut savoir qu'à Issoire, il y a un circuit. Et à Issoire, il y a le musée Vauxhall. Et si vous allez au musée Vauxhall, vous pleurez. Parce que vous pensez que vous allez arriver à la naissance d'une nouvelle machine. Bon. Tellement on explique bien cette machine.
On l'avait dit que c'était une histoire triste. Voilà, le magazine de la moto, c'est terminé. Nous vous souhaitons un bon dimanche et surtout une bonne semaine. Restez à l'écoute de Radio Campus Lille et rendez-vous même heure, même endroit, dimanche prochain sur le 106,6.